Le système français, si on repart en arrière, avant 2002, il était ça, très simple, c'était ce qu'on appelle de l'assistanat pur. On avait le choix en tant que personne handicapée majeure entre ou l'institution ou dépendre d'une famille qui se sacrifiait à vie pour subvenir aux besoins vitaux ou prendre le risque de vivre de façon autonome avec des bouts de ficelle et en vivant sous l'épée de Damoclès qu'est la non-assistance de personnes en danger. Un exemple très précis et concret. Une femme, 40 ans, sous respirateur et sous oxygène du jour, qui vivait seule les trois quarts de la journée, qui dormait seule dans son appartement, qui le week-end n'avait que le passage d'une infirmière quatre fois dans la journée, qui à midi le week-end mangeait des nourritures lyophilisées ou des petits gâteaux secs parce qu'elle n'avait personne pour lui faire à manger, si l'infirmière ne passait pas un temps, se retrouvait dans son urine ou dans sa merde. C'était ça ce qui existait. Avant 2002, le seul moyen de prise en charge à domicile passait par le prestataire. C'est-à-dire que, en fait, la personne handicapée dépendait d'un service d'aide à domicile, en l'occurrence un service d'auxiliaire de vie, qui mettait à disposition pendant 2 heures, 4 heures ou 6 heures, une ou plusieurs auxiliaires de vie, que cette personne handicapée n'avait ni le choix de la personne qui l'accompagnait, ni un droit de regard sur le financement. Ce n'est pas elle qui gérait, elle subissait. Si la relation avec l'aidant était positive, tant mieux. Si elle ne l'était pas, tant pis. Elle n'avait pas le choix, c'était ça ou rien. D'autre part, à l'époque, et encore maintenant, en passant par le prestataire, vous pouviez être dépendant dans un mois de 20 à 30 auxiliaires. Être lavé, soigné, accompagné par 40 à 60 mains différentes. C'est... Humainement, c'est inconcevable. En France, l'institution avait jusqu'à présent une position centrale, voire hégémonique. Aujourd'hui, le mouvement qui est en refuse l'hégémonie de l'institution. L'institution était une facilité. Et une facilité d'autant plus révoltante que, premièrement, très souvent, elle est un déni de la personne et que, deuxièmement, son coût est largement supérieur au coût d'une prise en charge à domicile. Et ça, mon expérience l'a démontré. L'institution ne peut pas et ne pourra jamais offrir la qualité de vie que peut offrir la prise en charge à domicile. Mes ressources financières. D'une part, il y a l'allocation aux handicapés, qui est considérée comme étant la ressource propre, qui est actuellement de l'ordre de 750 euros par mois. Donc, on est logiquement censé vivre avec ça. D'autre part, on touche par mois ce qu'on appelle la CTP, qui est l'allocation compensatrice tierce personne, qui elle est un peu plus élevée, près de 800 euros. Mais il faut savoir que la CTP est dévolue au financement d'une tierce personne. Donc d'un aidant, d'un auxiliaire de vie. Et il faut savoir que la CTP actuellement permet de financer 3 heures d'aidant par jour. Et avec 3 heures d'aidant par jour, Il est impossible, quand on dépend de quelqu'un jour et nuit, d'aller très loin. Et c'est ce qui se passait jusqu'en 2002, et qui se passe encore dans beaucoup de foyers. Et jusqu'à présent, en France, on avait bonne conscience. On estimait que c'était pas mal. Avant 2002, j'étais marié, j'avais deux enfants. Pendant plus de 20 ans, j'ai dépendu d'une seule personne qui m'assumait jour et nuit, qui était mon ex-épouse. Quand elle m'a connu, j'étais depuis 5 ans et demi dans un service de réanimation médicale. Je coûtais une fortune par jour, et que donc du jour au lendemain, elle a tout arrêté pour accepter de vivre avec une allocation compensatrice qui était indigne, qui était une misère pour quelqu'un qui travaille jour et nuit sans perspective d'avenir, sans perspective de retraite. Rien. À partir de 1988, j'ai déjà commencé à monter au créneau. Et à l'époque, j'ai dit, écoutez, c'est honteux. Ma femme s'occupe de moi jour et nuit. Et la verse est épée, on n'arrive plus à suivre. Il faut envisager autre chose. Et pendant 2 ans, les instances régionales se sont chaque fois débinées. Jusqu'au jour où, en 91, et je reçois un courrier me disant, bah, écoutez, on va octroyer à votre femme un mi-temps d'aide-soignante. Elle sera rattachée à un service de soins à domicile, mais n'aura pas besoin de travailler. Ça nous a soulagés pendant 10 ans. Mais c'était encore une solution bancale. Cette situation a été dramatique. Elle a eu les conséquences qu'on sait. Aujourd'hui, c'est celle du divorce. Il n'y a rien de pire dans le cas d'un couple mixte, où l'un des deux est totalement dépendant, que la confusion des rôles qui est imposée par la société. Ah! La confusion des rôles vous tue un couple. Parce qu'on ne peut pas être à la fois l'épouse, la maîtresse, la soignante et la mère. Impossible. On ne peut pas à la fois aimer une femme et en dépendre jour et nuit. Ça crée des situations qui sont inadmissibles. Je me suis séparé de mon ex-épouse il y a 2 ans, que c'est cette séparation qui a fait que j'ai dit stop, que je me suis soulevé contre l'État. On rencontre Ségolène Royal, socialiste, ministre de la Famille et des Personnes Handicapées de 2000 à 2002, je crois, parce que on vivait déjà une crise de couple. Mon ex-femme et moi, depuis 4 ans, elle s'effondrait. Et donc, à l'époque, on essayait de raccommoder. Et la solution, c'est que on voulait que elle soit insérée dans son métier d'infirmière, puisque depuis 20 ans, elle avait arrêté tout. On avait donc rencontré Ségolène Royal pour obtenir que Gabi soit payée tous les mois par un salaire d'infirmière équivalent à ce qu'elle aurait gagné à l'époque si elle n'avait pas arrêté de travailler. Et il se trouve que 5 mois plus tard, après une discussion, on a décidé de se séparer parce que on trouvait que ça servait à rien continuer, qu'elle allait se détruire de plus en plus, que c'était un non-sens. Le 8 janvier 2001, on m'annonce que généreusement on allait nous octroyer un deuxième mi-temps d'aide-soignante, ce que j'ai trouvé mesquin et comment dire, humiliant, parce que c'était mépriser ce qu'on voulait. Donc j'ai rappelé le ministère et j'ai dit, écoutez, c'est gentil, vous voulez payer un salaire, et j'ai un problème, on va se séparer. Mais je refuse d'aller en institution. Donc il faut des accompagnants jour et nuit. Qu'est-ce que vous me proposez? Et à l'autre bout du fil, j'ai entendu le conseiller déglutir, rester plongé dans un long silence, et me dire, écoutez, ah, bon, ben, je vais en parler à la ministre, on vous rappelle. Et puis, rappel, tintin. Et dans la foulée, j'ai fait un fax que j'ai envoyé directement à Ségolène Royal, dans lequel je lui dis que, dans ces conditions, puisque elle ne semblait pas comprendre l'urgence et la gravité de notre situation, j'allais entamer une grève de la faim le 14 janvier, 6 jours plus tard, et au bas du fax, je lui précisais que j'envoyais copie à, et je mettais le nom d'une dizaine de journalistes. Plus tard, j'ai appris que quand le fax est arrivé là-bas, ça a créé une ébullition. Ils ont commencé à courir dans tous les sens. Et le 14 janvier, alors qu'il y avait l'AFP à côté de moi, à 11h, je reçois un coup de fil me disant « Monsieur Ndus, après réflexion, finalement, Madame la Ministre a décidé de vous octroyer 50 000 euros annuels. » J'ai dit « Merci beaucoup, c'est une bonne nouvelle. » Et j'ai fait le calcul. Et j'ai dit « Mais écoutez, un problème. Je trouve que ces 50 000 euros, c'est une avancée énorme. Mais sauf erreur de ma part, ils vont m'offrir une autonomie à mi-temps. Donc vous pensez que je dois vivre 4 jours chez moi et 4 jours à l'hôpital? Je peux pas. C'est une avancée, mais il faut qu'on réfléchisse pour aller plus loin. » Et pendant 2 mois, j'ai envoyé des courriers et des fax à Ségolène Royal sans réponse. Entre temps, ma femme était toujours là, en fait. Parce qu'elle ne voulait pas m'abandonner. Et à mon avis, on a payé très cher ces 2 mois de temps. Et donc, pendant ces 2 mois, Internet aidant et les médias aidant, des personnes handicapées dans la même situation ont eu vent de ce que je faisais. Et elles m'ont contacté pour me dire « Écoutez, vous faites ce que vous voulez. Nous, on vous suit. » J'ai écrit à Ségolène Royal pour lui dire « Écoutez, madame, devant votre silence, nous allons venir le 11 mars à 5 et nous ferons une grève de la faim devant votre ministère sur le trottoir. » Et on débarque le 11 mars. Quand moi j'arrive, il y avait déjà les médias, il y avait des autres grévistes, et j'étais à peine devant le ministère. Des conseillers techniques m'avaient me disent « Écoutez, monsieur, vous êtes attendus tous à l'intérieur. On vous offre à manger et on vous annonce les mesures qu'on a décidé de vous proposer. » Donc, une grève de la faim avortée. C'est ce jour-là qu'on a annoncé la mise en place de ce qui va s'appeler le dispositif grande dépendance. Ce dispositif repose sur des fonds d'État, en l'occurrence des forfaits postes d'auxiliaire de vie, c'est-à-dire des équivalents de postes d'auxiliaire de vie, en sachant qu'un poste représente 804 euros par mois. À l'époque, on m'a octroyé 6 forfaits postes, plus une subvention du conseil général. En fait, une enveloppe qui représente environ 83 000 euros par an. Donc 33 000 euros de plus que ce qui m'était proposé à l'époque. Avec ça, j'emploie 4 accompagnants à temps plein. A priori, je suis le seul à avoir autant d'argent. Il n'y a pas de loi pour l'instant, il y a des circulaires qui cadrent le système plus ou moins bien. Depuis 2 ans, est en train d'apparaître une nouvelle profession qui est le fruit du dispositif grande dépendance, et que moi j'appelle accompagnant. Alors qu'est-ce que c'est l'accompagnant? L'accompagnant, pour l'instant, le statut n'est pas clair, et la profession se dessine, mais elle n'a pas encore de convention collective. Dans les faits, c'est une personne qui a un diplôme dans le social. C'est une profession qui se situe entre l'auxiliaire de vie et l'éducateur. D'autre part, l'accompagnant, en plus de cette qualification, est quelqu'un qui est formé individuellement à assumer des gestes médicaux. En l'occurrence, chez moi par exemple, ils font les aspirations, les changements de canules, toute forme d'actes médicaux que je leur délègue et pour lesquels ils ont été formés au préalable. C'est ce qui fait la spécificité du métier d'accompagnant. C'est une des bases de nos revendications. Pour nous, être autonome, c'est aussi pouvoir passer par des personnes compétentes ayant la possibilité et les capacités d'assumer des actes médicaux pour nous éviter de dépendre d'infirmières. En fait, moi, quand je pars à Paris, je pars avec mes accompagnants et je n'ai pas besoin de chercher sur place une infirmière libérale. Je peux aller à Lyon, à Tombouctou, à Marseille, à Amsterdam, je peux aller où je veux. Dès mars 2002, j'ai proposé la création d'une coordination handicap et autonomie. Une coordination pour quoi faire? Parce que en France, il y avait l'hégémonie des associations. Les associations en France ont une position perverse et ambiguë. Parce que les plus grandes d'entre elles sont à la fois porteuses de nos revendications, gestionnaires d'institutions et gestionnaires du service de soins à domicile. Ce qui fait que, d'un côté, elles soutiennent nos actions allant vers une autonomisation du système, c'est-à-dire vers l'autogestion de nos fonds. Mais de l'autre côté, elle serait complètement masochiste d'aller totalement vers ce système, puisqu'elle perdrait des ressources énormes. Et si on ne passe plus par elle pour gérer notre futur personnel, elle serait face à un manque à gagner énorme. Une assoce, pour des raisons gestionnaires, purement mercantiles, d'intérêt interne et pour des raisons éthiques, jamais n'aurait osé dire à ses adhérents, vous gênez pas, allez-y, faites une grève de la faim. Il m'a semblé évident d'emblée que le seul moyen de gagner, d'obtenir gain de cause, de mettre en place une politique en direction des personnes en situation de grande dépendance était de s'unir. Et donc, la coordination handicap et autonomie a pour particularité de n'être fondée sur aucun statut réducteur et limitatif. C'est-à-dire que adhère à la coordination qui veut, association, individu, sans avoir d'obligation, si ce n'est celle de défendre la même cause, qui est celle du droit à l'autonomie, au libre choix des personnes handicapées en général et des personnes très dépendantes en particulier. Ce qui nous a permis aussi très vite d'être reconnus par le ministère et de travailler avec lui. Très vite, le ministère s'est vu débordé par des situations sur le terrain et incapable d'assumer des situations au cas par cas. En plus, c'est pas le rôle d'un ministère normalement de faire du cas par cas. Il est là pour mettre en place une politique globale. Et donc est venue l'idée, comme je connais bien le problème, de m'engager pour résoudre ces situations au cas par cas. Et c'est effectivement ce que j'ai fait pendant 3 mois, en sachant que j'étais pas rattaché au cabinet, que j'avais un titre de collaborateur, collaborateur de la ministre, soi-disant, parce qu'ils n'avaient pas les moyens, que j'étais payé au SMIC, alors que d'octobre à décembre, l'année dernière, je travaillais souvent 7 jours sur 7, souvent jusqu'à 10 heures du soir, parce que c'était très très prenant, et que d'emblée, on m'avait dit que je n'aurais pas de frais de mission. Alors que dans le même temps, l'État a dilapidé pas mal d'argent. On n'a pas hésité à dépenser, je crois, 100 millions d'euros pour permettre à une délégation hautement placée et très huppée d'élus d'assister à la canonisation de Mère Teresa. Le problème dans ce pays, c'est qu'on est dirigé par des gens qui ne savent pas ce que c'est le handicap, qui n'ont aucune idée de ce que c'est une vie au quotidien avec un handicap. Et qui plus est, qui travaille dans un cabinet où il n'y a pas une seule personne handicapée. Non seulement j'étais la première et la seule, je crois que c'était la première fois en France qu'on embauchait à un tel niveau une personne aussi gravement handicapée. J'ai démissionné parce que j'avais ni les moyens financiers, ni les moyen d'exercer le travail qu'on me demandait de faire. En plus, j'étais privé de toutes mes responsabilités. J'ai pris plusieurs fois le ministère en faute. J'ai constaté un jour qu'on m'avait menti, qu'on m'avait évincé d'une réunion à laquelle j'étais censé participer. Donc je ne voyais pas l'intérêt de rester. On est tous discriminés. SDF, chômeurs, smicards, blancs, beurs, handicapés, ou femmes, tout simplement, on est discriminés. Dès qu'on ne colle pas à une norme, on est discriminé. Donc je ne me sens pas plus discriminé. Parce que je suis handicapé, on n'est pas sur le même plan d'égalité. C'est évident. Et en fait, depuis 2 ans, je dis clairement que je ne me bats pas pour les personnes handicapées. Je me bats pour un choix de société. Ce que je veux, c'est connaître, savoir quelle est la place de chacun dans ce pays et quelle est la valeur de chacun. Et pour l'instant, cette réponse, je ne l'ai pas. Et je ne l'ai pas parce qu'elle est compromettante. Oui, je me suis senti humilié à l'école plusieurs fois parce qu'à l'époque, il n'y avait pas ce qu'on appelle des auxiliaires d'intégration, c'est-à-dire des personnes chargées d'accompagner un enfant, un élève handicapé dans son cursus scolaire. C'est mon frère qui m'a emmené à l'école. C'est pour ça aussi que j'ai dû arrêter l'école, parce qu'à 15 ans, mon physique ne suivait plus. Avec un ordinateur, j'aurais pu continuer. D'autre part, n'ayant pas d'auxiliaire d'intégration, en cas de besoin urgent, si je n'avais pas la force de me retenir, ben, je faisais dans les pantalons. Ça aussi, c'est humiliant. Et puis, de toute façon, les humiliations n'ont pas arrêté. Même si elles ne sont plus vécues aujourd'hui comme des humiliations, je me fais régulièrement jeter d'un restaurant. Il y a un an environ, j'étais avec une personne du cabinet de Madame Boisseau dans un restaurant près du ministère. Et la patronne s'est penchée au-dessus de mes accompagnants. Elle a dit « Il mange, lui ?» J'ai répondu « Mais... » Évidemment. « Ah bon, il mange ?» Bah écoute, moi je prends pas la responsabilité. Qui la prend ? C'est... Tout ça, c'est courant. Le système que j'ai mis en place, dont je bénéficie, ma connaissance est unique dans la qualité de son fonctionnement, dans les espoirs qu'il espère, et dans la liberté de gestion que j'ai. Mon espoir et ma volonté Et c'est pour ça que je continue à me battre. C'est les autres bénéficiaires jouent la même chose que moi. La même chose, entre guillemets, adaptée à leurs envies. Aujourd'hui, ma compagne, c'est une de mes accompagnantes. Et la vie est très malicieuse, puisque... Là encore, c'est une histoire assez fabuleuse. Début janvier 2002, alors que... je viens d'annoncer que j'allais faire la grève de la faim, je reçois un coup de fil d'un responsable d'une école de formation qui me demande si je veux bien venir faire une conférence sur l'autodétermination. Et aussitôt, je sens qu'il faut que j'y aille. Et pendant la conférence, j'annonce clairement que je cherche quatre personnes. À la fin de la conférence, il y en a quatre qui viennent. Et dans les quatre, justement, il y a Marie, qui sera la première qui commencera. Et elle aura à peine commencé. Gabi sera même pas encore partie. Et il y a une passion qui va naître. Ce qui fait que depuis le début, j'ai jamais su ce que c'était être seul. Et que ce qui est fabuleux, c'est que j'ai basculé dans un autre monde qui est celui non seulement de l'engagement total, où je vis ce que j'ai envie de vivre, pour une idée que j'ai de la démocratie, de l'amour, de... C'est pour ça, moi je peux difficilement me plaindre d'être handicapé, même si c'est pas une sinécure, même si, à mon avis, le combat est loin d'être fini. Mais en même temps, le handicap m'a ouvert sur un tas d'autres choses. J'ai commencé à écrire à l'âge de 20 ans quand j'étais en réa. Et comme j'avais aucun outil adapté à ma disposition, je m'étais contenté de faire de la poésie. Parce que je pouvais mémoriser un poème et une fois qu'il était écrit, mentalement, je pouvais le dicter. Ce qui fait qu'il m'arrivait par exemple de retenir un poème 48 heures parce que j'avais personne sous la main avant 48 heures, les gens étaient pris. Mais ça me limitait parce que c'était impossible d'écrire mentalement un roman. Impossible de retenir un chapitre. Et puis quand la commande vocale est arrivée, là j'ai pas hésité. J'aimerais vivre de mes écrits. D'une part, les autobiographies, mais pour moi quelque part c'est accessoire. J'ai des romans qui sont terminés, qui n'attendent qu'à être publiés. J'ai des recueils de nouvelles. Et j'ai surtout de la poésie. Ma plus grande peur, ça a toujours été l'idée de me brûler étouffé. Oui, parce que je suis sous respirateur, je suis dépendant 22 heures par jour. Donc j'ai un rapport à l'étouffement particulier par ça. Peut-être pas réaliser tout ce que j'ai envie de réaliser. Parce que le fait d'avoir travaillé au ministère, j'ai goûté au plaisir d'avoir un statut professionnel, donc social, j'ai goûté au plaisir de gagner mon propre argent. Et j'aimerais y goûter très vite. Ce qui m'a donné la dignité, c'est le fait de savoir que je suis moi. Et que quoi qu'on fasse, quoi qu'il m'arrive, on ne pourrait jamais réduire ce que je suis. Ma dignité est née de la certitude que j'ai d'être libre.